BFM Politique. Benjamin Duhamel.
Raphaël Glucksmann, invité de BFM Politique, et je signale à tous ceux qui nous regardent à la maison chez eux qu'ils peuvent vous interpeller directement en scannant le QR code qui va apparaître à droite de l'écran, juste là, et nous relayerons vos questions tout au long de cette émission. Le QR code qui va apparaître, ce sont les magies de la télévision, et le voilà. Raphaël Glucksmann, dans les colonnes du Parisien, Emmanuel Macron a réaffirmé que des opérations sur le terrain en Ukraine seront peut-être nécessaires, tout en précisant qu'il ne le souhaite pas et qu'il n'en prendra pas l'initiative. Mais il rajoute, ouvrez les guillemets, la force de la France, c'est que nous pouvons le faire. Est-ce qu'il a raison, après cette intervention de jeudi soir à la télévision, de maintenir cette ambiguïté stratégique, voire d'aller encore un peu plus loin en disant ce sera peut-être nécessaire qu'il y ait des opérations sur le terrain ?
Emmanuel Macron a raison de souligner le caractère gravissime de la situation. Une défaite de l'Ukraine, ce serait la fin de la paix et de la sécurité sur l'ensemble du continent européen pour des décennies. Et il faut vraiment que les gens comprennent cela. Moi, cela fait 20 ans que j'essaye d'alerter sur le danger que fait peser Poutine, pas simplement sur ses voisins, mais sur l'ensemble des Européens. Et je n'ai pas été entendu, et tous ceux qui ont essayé d'alerter n'ont pas été entendus. Donc maintenant, il faut devenir très sérieux. Ce qui se joue, c'est pas simplement l'avenir de l'Ukraine. C'est notre avenir à toutes et tous. Et donc, c'est pas simplement par solidarité vis-à-vis des Ukrainiens qu'on doit les aider à défaire l'armée russe. Mais c'est aussi par conscience de nos intérêts vitaux. Maintenant, ce que les Ukrainiens nous demandent et ce que la situation exige de nous aujourd'hui, ce n'est pas d'envoyer des troupes sur le terrain. Personne aujourd'hui ne demande aux jeunes Français d'aller mourir pour Kiev ou pour Odessa.
Mais donc il a tort de rappeler la possibilité, si la situation le rendait nécessaire, d'envoyer des troupes
Il lance un débat aujourd'hui qui n'a pas lieu d'être. Et on a vu pendant 15 jours un débat français, typiquement français, qui n'a pas lieu dans les autres pays européens, sur faut-il mourir maintenant pour les Ukrainiens ou pas. C'est pas ça la question du moment. La question du moment, c'est qu'au bout de 2 ans de guerre, alors qu'on savait qu'il y avait une pénurie de munitions à l'horizon, eh bien, on n'a pas su mobiliser nos industries. Et aujourd'hui, au bout de 2 ans, eh bien, le ministre de la Défense français s'enorgueillit de pouvoir livrer 3000 obus par mois au front ukrainien, alors que les Russes en tirent 20 000 par jour. Ouais. Donc, l'enjeu du moment, c'est de mobiliser notre industrie. C'est d'aller chercher les obus partout où ils se trouvent à l'échelle du monde pour empêcher cette pénurie de munitions.
J'entends ce que vous dites sur les obus, mais ce qui est paradoxal, si vous permettez, c'est que vous dites, pendant 20 ans, j'ai alerté, je n'ai pas été écouté, il faut utiliser le langage que comprend Vladimir Poutine, c'est-à-dire le langage du rapport de force.
Et le langage du rapport de force, ça passe par des actes.
Oui, mais sauf que là, quand Emmanuel Macron dit cela, vous dites, au fond, ce n'est pas le débat.
C'est pas le débat aujourd'hui.
Français, mais aujourd'hui, on voit un certain nombre de pays européens qui, les uns après les autres, commencent à dire la Pologne, la République tchèque.
C'est pas le débat.
Il n'a pas tort de dire ça sur
le débat. Ce n'est pas le débat aujourd'hui. Par contre, ce qui est le débat aujourd'hui, c'est qu'on arrive à produire les équipements nécessaires. Ce qui est le débat aujourd'hui, c'est qu'on saisisse les 206 milliards d'avoirs publics russes qui sont en ce moment gelés dans nos banques.
Mais c'est un débat qui est mené en parallèle.
Mais
on parle aussi d'acheter, par exemple, des munitions hors de l'Union européenne. Il y a un travail européen qui a été fait, donc ça avance.
Très bien. Et donc, enfin, le président de la République française a changé de cap et a pris au sérieux la menace qui pesait sur, pas simplement les Ukrainiens, mais l'ensemble des Européens. Et donc, moi, là-dessus, je le félicite. Je pense que c'est très bien. Je pense que c'est très bien que la France prenne la tête d'une coalition pour fournir des équipements et pour relancer l'industrie de l'armement en Europe.
Mais donc, on peut faire l'un et l'autre.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est que je ne veux pas que les Français et les Français se trompent de débat. Je ne veux pas aujourd'hui qu'on ait une insurrection contre l'aide à l'Ukraine sur le thème « mais nous ne voulons pas faire la guerre ». Mais ce qu'on nous demande, ce n'est pas de faire la guerre. Et précisément, si on fait ce qu'on doit faire, si on avait fait, déjà pendant les 2 années qui précèdent le moment où on se parle, si on avait fait ce qu'on devait faire, eh bien la première contre-offensive ukrainienne ne se serait pas arrêtée. Parce qu'elle s'est arrêtée pourquoi ? Parce que nous n'avions pas fourni les munitions, parce que nous n'avions pas fourni les missiles à longue portée, parce que nous n'avions pas fourni les chars.
Mais c'est-à-dire, vous pensez qu'il n'y aura jamais besoin d'envoyer de troupes françaises au sol en Ukraine ?
Je pense que si nous faisons ce que nous devons faire aujourd'hui, nous n'en aurons pas besoin. Mais vous savez, si Poutine gagne en Ukraine, qu'est-ce qui va se passer ensuite ? Il va s'arrêter ? Non. Il ne va pas s'arrêter.
C'est-à-dire qu'il ira.
On a pensé déjà qu'il s'arrêterait après la Tchétchénie. Ensuite, on a pensé qu'il s'arrêterait après la Géorgie. Donc, on a mis la tête dans le sable et on l'a laissé faire. Ouais. On a pensé qu'il s'arrêterait après la Crimée et le Donbass. Eh bien, il ne s'arrêtera pas après l'Ukraine. Je peux vous le dire. Il ne s'arrêtera pas après l'Ukraine. Et nous, si jamais l'Ukraine perd, nous aurons à nous poser la question. Oui. Et c'est précisément pour éviter de se poser la question qu'il faut faire aujourd'hui tout ce qui est en notre pouvoir de faire pour que l'Ukraine gagne cette guerre.
Et on va continuer à en parler, mais donc je retiens de ce que vous dites. Vous dites qu'il n'y a pas besoin, c'est un mauvais débat sur les troupes au sol, mais vous saluez le, je ne sais pas si on peut appeler ça un tournant, mais en tout cas la tonalité qu'utilise le président de la République depuis jeudi soir. Vous considérez que maintenant il a les mots qu'il faut.
J'espère qu'il n'y aura pas de changement de cap, puisque Emmanuel Macron a changé de cap une dizaine de fois sur le conflit. J'espère qu'il n'y aura pas de changement de cap. Et je dis encore une fois, une chose, nous avons méprisé les alertes des pays d'Europe centrale et orientale pendant des années et des années. Nous avons courtisé Vladimir Poutine et nous avons pensé qu'en étant gentils avec lui, eh bien nous allons sauver la paix. Ce qu'il faut comprendre, c'est que face à un tyran comme Poutine, aux ambitions impérialistes comme les siennes, eh bien ce qu'il faut faire, c'est être ferme. Et que si vous voulez la paix en Europe, vous devez être ferme. Chaque tergiversation, chaque faiblesse nous rapproche de la guerre. Donc, être réellement pacifiste en ce moment, c'est tout faire pour que l'Ukraine l'emporte.
Question d'Amandine Atalaya.
Oui, parce qu'il y a une autre nouveauté dans le ton d'Emmanuel Macron dans son interview aux Parisiens, c'est que lorsqu'il parle de Vladimir Poutine, qui va donc être réélu ce soir, il dit que nous avons tort d'être intimidés par la Russie, qui n'est pas une grande puissance. Alors, il parle du PIB, notamment, voilà, l'économie. Il a raison de dire ça ou bien c'est la méthode Coué ?
Il a raison de dire qu'il ne faut pas être tétanisé, qu'il ne faut pas être effrayé, qu'il faut rester acteur. Par contre, le PIB n'a rien à voir avec la puissance de nuisance d'un pays. La Russie a toujours eu un PIB dérisoire. Et pourtant, la Russie nous a humiliés pendant des années et s'est essuyé les pieds sur notre souveraineté. Dans l'arène internationale, il y a autre chose que le PIB. Il y a la puissance militaire, évidemment. Mais il y a aussi la capacité à incarner une volonté politique. Ce que les dirigeants européens n'ont pas su faire pendant des années face à Poutine. Et donc, la Russie est forte de notre faiblesse.
C'est nous qui n'intimidons plus.
Si nous sommes, nous, forts, nous allons nous en sortir. Et moi, c'est le message que je veux passer et que je passe partout en France en ce moment. Il y a plus en nous que ce que nous croyons. La démocratie ne rime pas nécessairement avec la faiblesse. Et l'Europe ne rime pas nécessairement avec l'impuissance. Si on se mobilise, eh bien, franchement, on va s'en sortir. On va maintenir la paix et la sécurité sur le continent européen. Mais pour cela, il faut sortir des balivernes qui ont gouverné les pays européens pendant des décennies. Ce mythe de la fin de l'histoire, cette croyance de la paix perpétuelle. En fait, ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est un moment décisif. C'est le moment où on se rend compte que tout ce qu'on pensait acquis, la paix, la démocratie, tout ce qu'on croyait éternel, était en fait éphémère et fragile. Et la démocratie, elle s'effondre si on ne se bat pas pour elle. La démocratie, elle s'effrite si on ne la cultive pas. Et donc, on est dans un moment comme ça, plastique de l'histoire, où on décide un moment de bascule. L'avenir des nations.
Valérie Acco, je vous donne la parole dans une seconde. Je voudrais juste qu'on regarde, en ce moment, vous voyez dans le journal de Philippe Godin tout à l'heure, les images des élections qui ont lieu. Je voudrais aussi vous montrer ces images qui nous parviennent de la tombe d'Alexeï Navalny, des images en direct à Moscou, de rassemblements, voilà, de moscovites spontanés qui viennent rendre hommage à Alexeï Navalny, cet opposant politique qui est mort dans des geôles russes en Sibérie. Question de Valérie Acco.
Ouais. Et s'il se mobilise aujourd'hui, c'est parce que ce soir, sans aucune surprise, Vladimir Poutine va être réélu pour la cinquième fois, après une élection qui s'est déroulée sous le signe de la répression et du verrouillage. Est-ce que ce plébiscite à venir, est-ce qu'il nous fait poser, quelles vont être les conséquences de ce plébiscite à venir pour la France et pour l'Europe ?
Aucune. Aucune. Vladimir Poutine poursuit une trajectoire linéaire. Tous ceux qui vous expliquent qu'il a changé, c'est simplement qu'ils essayent de masquer le fait qu'ils se sont radicalement plantés sur lui pendant 20 ans.
Oui, c'est, c'est ce que dit Emmanuel Macron notamment.
C'est celle d'une radicalisation permanente. Oui, parce qu'il s'est trompé. Ouais. Et donc, il va vous expliquer qu'il a changé. Il n'a pas changé. Et si on avait écouté Alexeï Navalny, si on avait écouté avant lui Anna Politkovskaya, si on avait écouté les opposants russes, on aurait su d'emblée qui était Vladimir Poutine. Vladimir Poutine, c'est un agent du KGB qui n'a jamais digéré la chute du mur de Berlin et qui n'a jamais digéré la chute de l'Empire soviétique qu'il qualifie de plus grande catastrophe du XXe siècle. Et depuis sa prise du pouvoir, il n'a de cesse que d'entamer un grand révisionnisme des frontières en Europe.
Qui est de vouloir, au fond, recréer l'Union soviétique.
L'Union soviétique et recréer la domination de l'Union soviétique sur une partie de l'Europe.
Est-ce qu'il faut que les États occidentaux, que les démocraties libérales, reconnaissent l'élection de Vladimir Poutine? On entend des voix, par exemple, une députée de la majorité, Anne Jeuntet, qui dit qu'il ne faut pas reconnaître l'élection de Vladimir Poutine.
Il ne faut pas reconnaître son élection, et d'autant plus qu'en réalité, nous, notre problème avec Vladimir Poutine, c'est les menaces qu'il fait peser sur nous. Oui. Et moi, j'ai présidé la commission sur les ingérences étrangères au Parlement européen pendant tout mon mandat. C'est moi qui ai demandé sa création au début. D'ailleurs, les gens me regardaient et me disaient « mais il est complètement malade, ce type, de quoi il parle ?» Et j'expliquais que non, Vladimir Poutine avait commencé une guerre hybride contre nos démocraties, c'est-à-dire des attaques sur l'espace informationnel européen, c'est-à-dire des cyberattaques contre nos hôpitaux, c'est-à-dire des cyberattaques contre l'Agence européenne du médicament, c'est-à-dire de prendre pour cible, via des milices en Afrique, nos soldats au Mali, et que donc il fallait réagir. Et cet homme que l'on voit là se vit comme étant en guerre contre nous. Et c'est ça qu'il faut comprendre. En fait, il se contrefiche du Donbass ou de la Crimée. Ce n'est pas une affaire de territoire. Son adversaire dans ce conflit, c'est l'Occident collectif, comme il le dit. C'est-à-dire nous.
C'est nos valeurs, la liberté.
Et ce n'est pas simplement nos valeurs, c'est nos systèmes politiques. Ouais. C'est nos nations.
Mais alors, Raphaël Glucksmann, on parlera dans un instant de vos concurrents à gauche qui n'ont pas exactement le même discours que vous, c'est le moins qu'on puisse dire. Juste avant, je vous écoute depuis le début là, et au fond, je me pose la question de votre valeur ajoutée par rapport à la ligne portée aujourd'hui par le président de la République. J'ai entendu ce qu'il a dit jeudi soir, quand il disait « si la Russie venait à gagner, la vie des Français changerait ». Je vous ai écouté, c'était le 19 février, au micro d'Apolline de Malherbe, ici sur BFM TV RMC. Vous disiez « si l'Ukraine s'effondre, c'est notre sécurité qui est en jeu », vous l'avez encore répété il y a un instant. C'est lui qui fait du Glucksmann ou c'est vous qui êtes macroniste? Au fond, comment est-ce que vous pouvez vous distinguer par rapport à la ligne qui est portée aujourd'hui, sachant que vous êtes candidat aux élections européennes et que vous appelez les Français à voter pour votre liste? Qu'est-ce que vous avez en plus sur ce sujet?
Déjà, j'ai en plus la crédibilité, parce que moi, ça fait 20 ans que je le dis. J'étais en Géorgie en 2008, quand il y a eu l'invasion russe, et je le disais. J'étais en Ukraine en 2014, au moment de l'annexion de la Crimée, et je le disais. Et depuis 2022, le 24 février, je le dis. Et au moment où Emmanuel Macron parlait de ne pas humilier la Russie, j'étais déjà en train d'expliquer que ce qu'il fallait, c'était mobiliser notre industrie de la défense, parce que cette guerre serait longue, qu'elle serait difficile, et que l'avenir de l'Europe était en jeu. Donc j'ai de mon côté la cohérence. Mais au-delà de cela, au-delà de cette cohérence, pour réellement mobiliser nos sociétés et, nos nations, il faut certes relancer l'industrie, mais il faut aussi la justice sociale, la justice fiscale, faire en sorte que notre Europe soit juste
en étant forte. Oui, mais Raphaël Glucksmann, si l'Ukraine est une thématique, et la thématique des élections européennes, qu'est-ce que vous avez à dire de beaucoup plus que Valérie Ayer, Emmanuel Macron ?
J'ai la cohérence, et j'ai aussi le groupe, moi, au Parlement européen pour mettre en place cette politique.
Avec un chancelier social-démocrate qui freine des quatre fers pour l'envoi de missiles longue portée.
Je suis désolé, mais c'est une élection européenne. Et donc, l'enjeu principal de cette élection, c'est quelle sera la force dominante du Parlement européen.
Et
le groupe d'Emmanuel Macron est une force d'appoint au Parlement européen. C'est un groupe qui n'a même pas, dans les projections, la moitié des députés que nous avons. Donc, si vous voulez fixer un cap pour l'Europe, il faut voter pour nous.
Et au-delà êtes plus proche, pour que les gens comprennent bien, de la position de la France insoumise ou de la position de la majorité présidentielle ?
Sur l'Ukraine, c'est évident qu'il y a un gouffre qui nous sépare de la France insoumise sur la question de la guerre en Europe, mais sur la question de la justice fiscale.
Vous me posez une question, vous me laissez répondre. Bah oui.
En fait, donc laissez-moi répondre.
Mais il n'y a pas de fossé avec la majorité présidentielle alors. S'il y a un gouffre avec la France insoumise, il y a un fossé avec
la question de l'Ukraine. Moi, je suis pas entré en politique pour avoir des attitudes pavloviennes et débiter des éléments de langage. Moi, je suis rentré en politique pour défendre des convictions. Et donc, quand Emmanuel Macron vient sur mes convictions sur l'Ukraine, je ne vais pas faire semblant d'être en désaccord frontal lorsqu'il dit qu'il faut livrer des missiles à la résistance ukrainienne juste pour marquer des points dans une émission
Glucksmann.
Du dimanche midi. Donc moi, c'est un combat de 20 ans.
Pas de mépris, pas de mépris pour les émissions du dimanche midi.
Donc,
donc vous êtes,
je ne vais pas changer mes positions.
Glucksmann, donc vous êtes plus proche sur ce sujet
d'Emmanuel Macron que de la France Insoumise. Et je suis plus proche de la France Insoumise sur la question de la fiscalité des plus riches. Et sur la question. Non, mais ce que ça veut dire, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire qu'en fait, si vous êtes de gauche pro-européen, eh bien, la seule cohérence, c'est de voter pour moi. Et si vous êtes à la fois attaché à la démocratie européenne, à la sécurité du continent européen et à la justice fiscale et au fait que les milliardaires payent des impôts et au fait que les super profits soient taxés lorsqu'il y a des profiteurs de guerre, eh bien, vous devez voter pour notre liste parce que vous n'avez pas à vous diviser intérieurement.
Au fond, la question qu'on pose, et juste après, Valérie vous posera une question sur l'adhésion de l'Ukraine dans l'Union européenne. Est-ce que cette campagne ne montre pas qu'il y a des gauches irréconciliables sur les questions géopolitiques? Vous dites, c'est pour moi un sujet existentiel.
Moi, je pense que cette campagne va permettre de trancher les lignes à gauche sur la question de la géopolitique, de l'Europe, du rapport aux dictatures, du rapport aux droits humains, du rapport à la violence politique.
Mais quand par exemple, je vous soumets ce que dit François Ruffin dans Le Monde hier. La paix parfaite n'aura pas lieu. Il y aura des compromis construits sur des rapports de force avec des discussions sur les frontières.
Il y a des frontières qui sont celles de 1991 et ces frontières sont internationalement reconnues. Elles étaient garanties par toutes les conventions internationales et donc la paix, ce sera le retour aux frontières de 1991.
Donc ça, c'est quoi? C'est de la naïveté, une forme de défaitisme.
J'ai lu son entretien pour vous dire et honnêtement, il y a des choses qui sont assez distinctives par rapport à Jean-Luc Mélenchon dans son entretien. Mais sur cette question des frontières, c'est une erreur. Et c'est une erreur de penser au-delà de ça. C'est une erreur de penser que c'est une affaire de frontières. Ce n'est pas une affaire de frontières. Vladimir Poutine ne fait pas la guerre pour le Donbass. Et ça, il va falloir que les gens l'intègrent. Et par ailleurs, oui, il y a une divergence profonde. Et moi, je ne me reconnais
réconciliable.
Absolument pas. Mais sur ce sujet-là, il y a une divergence profonde qu'on doit trancher. Et donc, c'est les électrices et les électeurs qui vont trancher.
Et vous pourrez un jour gouverner avec eux.
Et moi, je vais vous dire une chose.
Un jour gouverner avec eux. Vous êtes soutenu par un parti, le Parti Socialiste, mais qui dit qu'il faut un candidat unique en 2027.
Je suis pour que la gauche se rassemble. Mais elle ne se rassemblera pas sur la ligne de Jean-Luc Mélenchon. Je vous le dis. Elle ne se rassemblera pas sur une ligne anti-européenne.
Vous pourriez travailler avec des gens qui tiennent ces positions-là?
Mais là, si vous avez lu l'interview de François Ruffin, vous avez sorti la phrase sur les frontières.
Je peux vous citer Manon Aubry qui dit « Il vaut mieux un cessez-le-feu et un référendum qu'une guerre nucléaire. » Un cessez-le-feu et un référendum qu'une guerre nucléaire.
Oui, enfin, il vaut mieux respecter le droit international et il vaut mieux que la Russie perde. Et il n'y aura pas de guerre nucléaire et que la seule manière... Mais ça, c'est quelque chose... C'est une discussion de fond, en fait, et qui date depuis extrêmement longtemps. Parce que il y a une grande partie à gauche, mais beaucoup plus encore à droite, des élites françaises qui ont été contaminées par le poutino-pacifisme. Et on les retrouve même au centre. Et cette voie de garage doit prendre fin. Si vous voulez la paix, si vous êtes réellement attaché à la paix, alors vous devez faire preuve de fermeté et ne pas récompenser l'agresseur. Les frontières de l'Ukraine sont internationalement reconnues et la seule manière d'avoir la paix immédiatement, c'est que la Russie retire ses troupes d'Ukraine.
Question de Valérie Yakov.
Le 14 janvier, Raphaël Glucksmann, vous disiez, dans la perspective de l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, vous disiez, si vous considérez que cette adhésion, c'est une catastrophe, alors vous n'avez qu'à voter pour la liste RN. Est-ce que vous rediriez cette phrase aujourd'hui?
Non.
Pourquoi?
Parce qu'il y a d'autres listes qui sont contre l'adhésion de l'Ukraine et que je ne vois pas pourquoi je ferais ce cadeau à Jordan Bardella. Il est déjà assez haut dans les sondages et effectivement, franchement, mais je vais vous le dire, moi je reconnais sans problème quand je dis j'allais être mal poli, donc des âneries.
Attention, n'allez pas trop loin.
Je ne vais pas trop loin. Vous avez plein de listes qui sont opposées à l'adhésion de l'Ukraine et moi je défendrai l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Et je défendrai cette adhésion tout en précisant quand même que c'est un processus long, parce que là, on va faire pareil que sur les troupes, on va faire semblant que c'est une adhésion demain à loi constante en Ukraine, SMIC constant en Ukraine, et par ailleurs, PAC constante en Europe, politique agricole commune. Donc non, il y aura des réformes.
Que ceux qui nous regardent là se disent, au fond, l'agriculteur qui ne veut pas du poulet ukrainien, le salarié français qui voit les niveaux de salaire, se dit, une fois encore, Raphaël Glucksmann, il fait des grandes tirades sur la liberté, sur la nécessité de lutter contre le poutinisme, mais les sujets concrets des Français, ça n'intéresse pas.
Excusez-moi, c'est votre interprétation. Je pense déjà que les Français qui nous regardent sont intéressés par leur sécurité, par l'avenir de leur continent et par la capacité ou pas à vivre en paix ou en guerre en Europe. C'est pas des sujets abstraits.
Et par les conséquences concrètes qu'aurait pour eux dans la vie de tous les jours l'adhésion de l'Ukraine.
Et donc, une adhésion de l'Ukraine, ça suppose quoi? Ça suppose exactement ce qu'on défend, nous. Hein, contrairement à tous ceux qui sont des défenseurs, porte-parole autoproclamés de la colère des agriculteurs. Nous, on défend une réforme de la politique agricole commune. Parce qu'aujourd'hui, la politique agricole commune, elle est profondément injuste. 80% des subventions vont à 20% des exploitations. Et pourquoi c'est comme ça? Parce qu'en réalité, c'est fondé sur la taille des exploitations à l'hectare et c'est fondé aussi sur le niveau de production. Donc en fait, les grandes exploitations céréalières de la Beauce vont capter l'ensemble des subventions et les éleveurs qui travaillent 70 heures par semaine pour toucher 700 euros par mois, eux, eh bien, ils sont complètement oubliés par les subventions européennes. Donc nous, nous proposons une réforme de la politique agricole commune. Et si nous faisons la réforme que nous proposons en fondant sur l'emploi et sur l'utilité écologique, l'entrée de l'Ukraine ne sera pas une catastrophe pour les agriculteurs parce que la manière dont est structurée l'agriculture ukrainienne bénéficierait à fond de la PAC telle qu'elle est aujourd'hui, mais pas telle que nous la proposons. Et donc les réformes qui sont nécessaires pour que l'entrée de l'Ukraine ne heurte pas les intérêts des Français, eh bien ces réformes, elles sont de toute façon nécessaires. La politique agricole commune actuelle maintient 50% des agriculteurs dans la misère et nous, nous la combattons, contrairement à la majorité présidentielle, vous vouliez un exemple de différence, contrairement à la droite et contrairement à l'extrême droite qui la soutiennent.
Et on continue cette discussion dans un tout petit instant. Restez avec nous, BFM Politique, invité Raphaël Glucksmann.
BFM Politique, Benjamin Duhamel.
Raphaël Glucksmann, tête de liste aux européennes, Parti socialiste, Place publique, invité de BFM Politique. Raphaël Glucksmann, juste avant de continuer notre entretien, une question de téléspectateur. Voilà ce que vous demande Michel. Marie Toussaint, la candidate écologiste, ne veut pas participer au débat de CNews et vous invite à faire de même. Qu'est-ce que vous lui répondez?
Je réponds qu'elle a raison, que CNews n'est pas une chaîne d'information comme une autre. C'est une chaîne d'opinion qui promeut des thématiques d'extrême droite et que donc je ne compte pas m'y rendre.
Donc, vous n'irez pas
non.
au débat de CNews qui est organisé le 30 mai.
Oui.
Et est-ce que vous appelez les autres candidats de gauche à ne pas y aller?
Je vous donne ma position. Oui. Chacun fait ce qu'il veut. Mais il me semble que ce serait cautionner une chaîne qui promeut une idéologie que je juge, moi, extrêmement dangereuse. Et c'est pas.
Vous considérez que c'est une chaîne d'extrême droite, comme l'avait dit Pape Ndiaye, le ministre de l'Éducation nationale?
C'est une chaîne qui promeut consciemment, qui a un agenda idéologique, et que cette idéologie, moi, je la combats.
Mais comment est-ce qu'il y a de la pluralité si les gens de gauche ne veulent plus y aller?
Mais c'est. Vous savez, il y aura plein de débats. C'est un geste qui.
Sur cette chaîne d'ailleurs, le 27 mai.
Qui revient. À cautionner cette idéologie-là. Moi, je ne sais pas ce qu'elle est l'idéologie qui est derrière BFM. Je n'arrive pas à savoir. Je regarde.
Essayer de faire notre travail.
Voilà. Non, mais ce que je veux dire, c'est
oui,
non, mais
c'est peut-être
qu'on ne pense pas du tout la même chose, et ça ne me pose aucun problème. Moi, je suis pour le pluralisme. Simplement, c'est une chaîne qui a été condamnée par la justice, qui a fabriqué Éric Zemmour. Enfin, je veux dire, c'est pas.
Mais
anodin.
C'est une chaîne qui a des téléspectateurs.
Bien sûr,
ces téléspectateurs, vous ne souhaitez pas leur parler.
Simplement, moi, je ne vais pas faire la démarche d'aller cautionner une idéologie que je juge dangereuse.
Et donc c'est pas un peu de sectarisme de pas vouloir aller sur cette chaîne?
Non, c'est pas du sectarisme. Regardez, enfin, je suis convaincu d'ailleurs qu'on pense pas tout à fait la même chose. Je suis convaincu aussi je peux aller sans problème débattre sur des chaînes de droite sans aucune forme de.
Vous pouvez donner des interviews au Figaro.
Je peux tout à fait donner des interviews au Figaro. Et je peux tout à fait avoir une discussion ouverte avec des gens qui sont en totale contradiction avec moi, y compris avoir un débat avec le Rassemblement National. Pose pas de questions, puisqu'il y a une forme de pluralisme démocratique qui doit s'exercer. Simplement, CNews, c'est un instrument à des fins idéologiques. Et c'est une croisade culturelle, politique, idéologique. Et que moi, je ne me vois pas cautionner ça. C'est
juste, si je vais au bout de votre logique, vous considérez qu'il faudrait, comme certains le demandent, que la fréquence soit retirée de cette chaîne? Parce qu'il y a une renégociation des fréquences l'année prochaine.
C'est le débat aujourd'hui. Moi, j'ai répondu à votre question. Je me pencherai sur ce dossier plus tard.
Question de Valérie Acco sur ce qui s'est passé cette semaine à Sciences Po.
Et oui, la semaine passée à Sciences Po, où vous avez d'ailleurs été étudiant à Sciences Po, et à l'occasion d'une manifestation pour Gaza, une étudiante juive a été interdite de pénétrer, momentanément en tout cas, dans un amphithéâtre. Est-ce que, selon vous, il y a un problème d'antisémitisme à l'heure actuelle à Sciences Po?
Il y a un problème sur cet événement, en tout cas, grave. Et moi, je veux apporter mon soutien à cette étudiante, aux étudiants de l'UEJF. Et dire une chose, c'est que la mobilisation pour dénoncer les crimes commis à Gaza est parfaitement légitime, mais elle doit avoir lieu dans le respect absolu du pluralisme démocratique dont je viens de parler et du respect des opinions contradictoires. Et surtout, dans le refus intégral d'exclure une étudiante ou un étudiant parce qu'il appartiendrait à l'UEJF, vous vous rendez compte?
Et vous pensez que c'est un fait isolé ou que c'est une dérive plus générale, soit du monde universitaire, soit d'une partie de la cause pro-palestinienne qui parfois confond cette cause légitime et le fait d'avoir une forme d'ambiguïté vis-à-vis de l'antisémitisme?
Moi, mon rôle, c'est de mettre une frontière étanche. Je veux dire, qu'on soit révolté par ce qui se passe à Gaza, qu'on soit révolté par la politique de Netanyahou, qu'on soit révolté par la colonisation, c'est plus que légitime. Je pense que c'est un sentiment juste.
Et est-ce qu'on peut être anti-sioniste sans être antisémite?
On peut être anti-Netanyahou, on peut être anti-gouvernement israélien, oui, sans être antisémite. Ça, je peux vous garantir.
On a entendu certains étudiants se revendiquer comme étant antisioniste. Est-ce qu'on peut être antisioniste?
Est-ce que c'est antisioniste, c'est nier l'existence de l'État d'Israël, ou être antisioniste, c'est être anti une politique sioniste une politique colonialiste et tout ça. Ça, c'est pas l'enjeu là. L'enjeu là, c'est la frontière étanche entre soutien à la Palestine, soutien aux civils qui meurent à Gaza au moment où on se parle, et refus absolu, radical.
Oui, mais beaucoup disent l'antisionisme est le fauné de l'antisémitisme. Et en fait,
il l'est parfois. Ça, c'est une évidence absolue. Il l'est parfois. Mais je veux dire, on ne va pas non plus mettre sous le boisseau la critique légitime et un mouvement de solidarité légitime avec le peuple palestinien et une critique légitime du gouvernement d'extrême droite israélien sur le thème « attention, ça serait antisémite ». Non, ce n'est pas antisémite de dire que Netanyahou se conduit comme un criminel.
Et justement,
ce qui est antisémite, c'est de s'en prendre à une étudiante de l'UEJF. Et là, par contre, on franchit le Rubicon.
On va parler dans un instant de la situation à Gaza. Juste avant, il était aussi question d'une certaine façon de liberté d'expression à travers ce qui s'est passé à Sciences Po, de respect des principes de la République. Sur la liberté d'expression, je voudrais vous montrer ce dessin. Il est signé Coco, dessinatrice pour Libération, dessin qui a valu à son autrice, rescapée de l'attentat de Charlie Hebdo, des menaces de mort. Voilà, on voit ce dessin, Ramadan à Gaza, début d'un mois de jeûne, pas avant le coucher de soleil, un dessin qui évidemment se moque de la religion, dénonce ce qui est en train de se passer à Gaza, sauf que certains ne l'ont pas compris comme ça. Sophia Chikirou, députée insoumise, a réagi sur X, « Vous n'aurez pas notre haine, mais vous la méritez. » Est-ce qu'il mérite la haine, ce dessin?
C'est totalement irresponsable comme tweet. Et c'est dangereux. Donc non, évidemment pas. Il ne mérite pas la haine, ce dessin. En plus, la manière dont moi je lis le dessin, mais au-delà de ça, franchement, ce n'est pas ce qui compte. Mais la manière dont je lis le dessin, c'est que c'est...
C'est l'inverse.
C'est une dénonciation de la famine à Gaza. Donc en fait, c'est une dénonciation du blocus de l'aide et du fait que des gens meurent de faim au moment où on se parle à Gaza. Mais enfin, au-delà de ça, on a trop vu en France ce que coûtaient des menaces de mort et ce qu'impliquaient des menaces de mort contre des caricaturistes. Et donc, on doit être totalement dans la dénonciation de ces menaces, totalement dans le soutien à Coco et dans la liberté d'expression.
Là,
en plus, franchement, quand on regarde le dessin, on peut le trouver de mauvais goût, mais encore une fois...
Oui, il y a un contresens qui est fait, en plus.
Il y a un contresens total. Ouais. C'est-à-dire que là, la dénonciation, c'est la dénonciation de la famine qui frappe, au moment où on se parle, les civils palestiniens.
Et donc vous dites c'est irresponsable, ce genre de réaction en disant vous n'aurez pas notre haine, mais vous la méritez.
C'est totalement irresponsable.
Question d'Amandine Atalaya sur la situation à Gaza.
Oui, on parlait de Benjamin Netanyahou qui a donné son feu vert pour une intervention à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, où il y a 1,5 million de Palestiniens qui sont massés aujourd'hui. Et à l'instant d'ailleurs, Benjamin Netanyahou ajoute ce matin, la pression internationale n'empêchera pas une offensive à Rafah. Alors, que doit faire la France et que doit-elle dire qu'elle n'est pas déjà dit?
La pression internationale n'empêchera pas une offensive à Rafah, dit Benjamin Netanyahou, parce que la pression internationale n'est pas assez forte. Et il y a une chose qu'on peut faire. Parce que là, de quoi on parle? On parle de 1,5 million civils qui, pour beaucoup d'entre eux, sont partis du nord de la bande de Gaza qui a été complètement rasée pour se réfugier à Rafah et qui se retrouvent pris au piège. Et donc, il faut empêcher cette offensive. Et on a des moyens de pression que nous n'utilisons pas au moment où je vous parle. Moi, je vais prendre un exemple. L'Union européenne a un accord d'association avec Israël. Cet accord d'association a une clause des droits humains. Il faut activer cette clause des droits humains.
Donc il faut suspendre,
l'accord d'association jusqu'à ce qu'il y ait un cessez-le-feu. Oui. On a voté au Parlement européen sur cette question. On a perdu à 20 voix sur l'amendement que je portais. Mais il faut envoyer un signal beaucoup plus ferme qu'aujourd'hui. Oui. Évidemment que M. Netanyahou ne cédera pas tant qu'on n'utilise même pas les moyens de pression qui sont à notre disposition et qui sont très facilement activables.
Vous parlez
donc le message qu'envoie l'Union européenne, les dirigeants européens aujourd'hui,
est trop faible.
C'est qu'en réalité, ils ne sont pas sérieux, ils n'appuient pas leurs mots.
Vous trouvez la France indigne sur ce dossier ?
Je trouve que la France devrait faire beaucoup, beaucoup plus à l'échelle européenne et utiliser justement l'Union européenne comme une caisse de résonance parce qu'il y a, quand on est ensemble européens, il y a des moyens de pression.
Et Raphaël Glucksmann, dans ce débat, les mots sont importants. Chez nos confrères de Quotidien, vous avez parlé d'un carnage, mais vous avez dit refuser d'utiliser le mot génocide qui est utilisé par vos concurrents, notamment à gauche. Et d'ailleurs, Rima Hassan, la militante franco-palestinienne, qui est sur la liste de la France insoumise, vous a reproché de ne pas utiliser ce terme. Voilà ce qu'elle dit. Il aurait très bien pu le faire en étant factuel et en citant les procédures devant la Cour pénale internationale et la Cour internationale de justice. Il ne le fait pas. C'est là que je considère que sa posture n'est pas prudente, mais idéologique et électoraliste.
Mais écoutez, je me suis mobilisé pendant 10 ans de guerre en Ukraine. Et même après Boutcha, je n'ai pas utilisé le terme de génocide pour l'Ukraine. Je me suis mobilisé pendant 12 ans sur la Syrie, 500 000 morts, et je n'ai pas utilisé le terme de génocide. C'était idéologique, là, contre Bachar el-Assad, de ne pas utiliser ce terme.
Mais elle, dit que c'est électoraliste de ne pas vouloir utiliser ce terme. Qu'est-ce qu'elle veut dire par là ?
Franchement, j'en sais rien, vous lui demanderez, ça ne m'intéresse pas ce qu'elle peut raconter, mais...
Vous n'y voyez pas un sous-entendu ?
La chose que je veux dire, c'est qu'en fait, moi, j'emploie le terme de génocide avec une parcimonie extrême et je fais extrêmement attention à la manière dont on emploie ce terme. Sans doute est-ce lié au fait que j'ai commencé ma vie d'adulte dans les fosses communes du Rwanda avec un travail de plusieurs années sur l'extermination totale des Tutsis du Rwanda, où on allait tuer depuis le nourrisson jusqu'au vieillard dans les maisons, dans les marais et dans les églises. Et que donc je fais très attention. Mais quand on n'emploie pas le terme de génocide, ça ne veut pas dire qu'on ne se bat pas pour mettre fin aux crimes qui sont commis. Et même sur la question des Ouïghours, personne ne parlait des Ouïghours, d'accord ? Même sur la question des Ouïghours, j'ai attendu qu'un tribunal se prononce pour employer le terme.
Mais justement,
au bout
sur
de
les
trois
termes
ans de mobilisation.
Parce qu'ils sont importants et qu'on parlait de Rima Hassan. Lorsqu'elle a été interrogée une fois sur l'action du Hamas, la question cette action est-elle légitime ? Elle a répondu.
Vrai.
Oui, l'action du Hamas est-elle légitime ? Vrai, dirait Rima Hassan. Est-ce que vous prendriez. Quelqu'un qui dit ce type de propos sur votre liste.
Et c'est là encore le gouffre qui nous sépare de la France insoumise sur les questions géopolitiques et sur le rapport à la violence. Parce qu'en réalité, c'est le 7 octobre que ce gouffre est apparu aussi. C'est-à-dire que ne pas être capable de qualifier le Hamas d'organisation terroriste après des attentats terroristes aussi monstrueux que ceux qui ont eu lieu en Israël, c'est quand même une catastrophe. Et ça veut dire beaucoup de choses.
Mais
et donc nous n'avons pas bégayé au moment de qualifier le Hamas d'organisation terroriste et le pogrom du 7 octobre d'attaque terroriste. Et nous ne bégayons pas aujourd'hui pour être du côté d'une pression infiniment plus ferme
mais Raphaël Glucksmann,
à l'égard du gouvernement de Netanyahou, parce que ce n'est plus aujourd'hui lutter contre le terrorisme, ce qui se passe à Gaza. C'est raser entièrement
Raphaël Glucksmann.
la bande de Gaza et menacer...
Le fait que Rima Hassan soit présente sur cette liste, qu'est-ce que cela dit? Est-ce que cela dit une forme de complaisance vis-à-vis des propos pour le moins ambigus?
Je ne sais pas, vous inviterez honnêtement le responsable de l'organisation Insoumise.
Non mais attendez, vous êtes concurrent.
Franchement, enfin, moi je ne vais pas passer là 10 minutes à commenter l'ordonnancement interne de la liste France Insoumise.
Je pense que c'est un peu plus que ça. Et cela représente des débats qui sont importants, donc je vous pose la question extrêmement
clair sur nos divergences, le gouffre qui nous sépare sur cette question, et je pense qu'on peut avancer.
Alors, vous n'allez pas être content, parce qu'on va parler un peu de la campagne des européennes et de ce qui s'est passé hier, le lancement de la campagne de la France Insoumise.
Prochaine fois... J'ai un nouveau taf.
C'est un sujet important.
C'est commentateur des meetings.
Pas du tout, vous êtes candidat et donc il y a des concurrents.
Les couleurs étaient belles.
Et par ailleurs, ça peut permettre de parler de votre campagne. Jean-Luc Mélenchon est 80e sur la liste Insoumise. Est-ce que c'est... une bonne nouvelle pour eux, donc une mauvaise pour vous, parce que cela donne de la force à leur campagne, ou est-ce qu'au contraire, il y a une forme de clarification à gauche entre eux et vous, de ce point de vue-là?
Moi, je suis pour la clarté. Il aurait même pu prendre la tête de liste, que c'était très bien. Je suis pour la clarté. Je suis pour qu'on tranche ce qui nous sépare. Mais je suis aussi pour vous dire une chose. Nous, on n'est pas là pour participer à un match à gauche, là. Nous, on est là pour participer à un débat avec... D'un côté, la liste Renaissance qui promeut une forme de continuité des politiques européennes qui nous semble profondément injuste dans plusieurs aspects, et avec la liste qui est aujourd'hui en tête et qui est le Rassemblement National. Et donc, je ne vais pas, moi, m'installer dans un match à gauche, là.
Votre concurrent, c'est Renaissance. Aujourd'hui, ils sont à peu près à plus de 10 points au-dessus de vous. Ça dépend des sondages. Un peu moins parfois. Le dernier du monde, c'est effectivement 8 ou 9 points. Est-ce que vous pouvez encore les dépasser?
Ou 6 et demi, mais c'est pas grave.
Alors, ça dépend desquels. Il y en a où l'écart est un peu plus grand.
C'était celui du monde, mais c'est pas la question. Ouais.
Est-ce que vous pouvez encore leur passer devant? Est-ce que vous fixez comme objectif de passer devant la majorité présidentielle?
Je suis vraiment le pire invité, en fait, je pense. Je refuse de commenter les meetings des autres. Et en plus, je vais pas vous donner d'objectifs chiffrés.
Ah non, c'était pas ma question.
Donc, moi, ce que je vais vous dire, c'est que je veux qu'on parle d'Europe et qu'on montre quelles sont les différences. Et donc, moi, je vais parler d'Europe et de notre différence fondamentale sur les questions de justice avec Emmanuel Macron. Et je vais parler comment d'Europe, en racontant ce qui s'est passé pendant ce mandat. Et je vais vous raconter une chose. Il y a une directive de la Commission européenne et du Parlement européen, une loi européenne qui vient d'être actée, qui donne des droits aux millions de travailleurs des plateformes, de Uber, de Deliveroo, en Europe. Aujourd'hui, ces travailleurs n'ont aucun droit. Et là, on leur donne des droits. On leur donne les droits des salariés. Et l'Europe, quand elle fait ça, dirigée par Nicolas Schmit, le commissaire européen, social-démocrate, eh bien, elle est du côté du progrès social. Qui s'y oppose? Qui s'y oppose pour faire plaisir à Uber? La France d'Emmanuel Macron. Elle est le seul pays qui vote contre cette mesure de progrès social au Conseil européen.
Oui, mais vous savez très bien, Raphaël Glucksmann, que vous aurez plus ou moins de poids à gauche pour protéger nos producteurs et pour protéger les esclaves à l'autre bout de la terre en Chine.
Amandine.
Qui s'oppose à nos lois? Emmanuel Macron. Et donc, moi, ce que je veux dire, c'est que nous, on va porter une liste qui sera réellement cohérente dans l'affirmation politique de l'Europe, qui passera par la rupture avec des grands intérêts privés qu'Emmanuel Macron n'assume pas.
Votre positionnement aux élections européennes va changer la donne pour la suite et peut-être même pour le futur et 2027, suivant par exemple que vous arrivez devant les Insoumis ou pas, ça change beaucoup de choses. Est-ce que par exemple, si vous arrivez devant les Insoumis, vous estimez que le rassemblement à gauche ensuite doit se faire derrière vous?
Moi, j'estime qu'on va montrer qu'en France, à gauche, les gens qui sont pour l'Union européenne, pro-européens, fondamentalement attachés à la démocratie, sont majoritaires. Et on va montrer qu'il y a un espace politique immense. Et on va aussi rappeler une chose, parce que ni les journalistes politiques, ni les dirigeants des partis politiques français ne semblent l'avoir compris, c'est que c'est une élection européenne.
Donc ça veut dire que l'enjeu principal de cette élection... Ça veut dire que quand Jean-Luc Mélenchon dit 2024, ça prépare 2027, il se trompe.
Il fait du présidentialisme français habituel. Ouais. C'est-à-dire que pour quelqu'un qui est pour la 6e République, excusez-moi, mais vouloir rejouer toujours un nouveau tour de présidentiel, ça me semble paradoxal. Eh bien non, C'est une élection européenne.
Alors, il me reste deux questions.
C'est une élection européenne, mais laissez-moi le dire, parce que personne ne veut en parler, cette élection. Donc, moi, je suis candidat à une élection européenne. Peut-être le public, ça l'intéresse. Eh bien, les élections européennes, l'enjeu principal, c'est d'abord de savoir, oui, c'est une grande surprise et c'est très, très difficile à comprendre quand on est commentateur politique français, mais l'enjeu principal, c'est de savoir qui de la gauche ou de la droite gagnera ces élections.
Donc, et donc
je m'adresse au public derrière vous.
Oui, mais c'est pas le public, là, s'il vous plaît, juste parce qu'il nous reste pas beaucoup de temps.
Parce que peut-être que ça les intéresse.
Oui, mais peut-être, mais alors, il y a aussi des gens à la maison qui nous regardent, à la maison d'ailleurs.
Je regarde la caméra.
Alors, juste, Raphaël, deux questions.
Donc, l'enjeu, c'est est-ce que vous voulez Jacques Delors, président de la Commission européenne, ou Monsieur Barroso,
alors,
la gauche ou la droite,
si vous me permettez...
c'est ça l'enjeu. Les macronistes ou les lepénistes, finalement, à l'échelle européenne,
Je tente une question. Est-ce que, parfois, en vous rasant, vous pensez à être candidat en 2027?
Alors, laissez-moi être besogneux une fois de plus et de vous rappeler que, contrairement à l'ensemble des gens, quand je me rase, je pense aux élections européennes.
Et ben voilà.
Et je pense au 9 juin 2024, et je pense que c'est une élection fondamentale. Mais pourquoi c'est une élection fondamentale? Laissez-moi vous le dire. C'est que la transition écologique, vous en voulez, oui ou non? Eh bien, ça sera décidé par cette élection. Le fait que l'Europe puisse se retrouver seule si Donald Trump est président des États-Unis, donc qu'on ait une Europe de la défense, oui ou non?
Donc,
ça sera décidé par cette élection.
Donc, vous pensez jamais à l'élection présidentielle?
Est-ce que vous voulez taxer les milliardaires qui échappent aujourd'hui à l'impôt en Europe?
Je poserai la question 10 fois, j'aurai pas plus de succès.
C'est le 9 juin que ça décide. Et la seule manière, mais s'il vous plaît, la seule manière d'obtenir cela, d'obtenir de la justice sociale, d'obtenir une Europe qui soit solidaire et qui soit puissante, c'est de voter pour notre liste. Et donc, moi, je ne pense qu'à ça.
D'accord.
Qu'au 9 juin. Alors, pour que la gauche soit majoritaire.
Regardez la caméra, voilà, regardez éventuellement si je pose une question. Bah, Estelle, derrière sa télé, a une question à vous poser.
Ah, ok.
Pour finir, que pensez-vous du harcèlement que subit la chanteuse Aya Nakamura depuis sa rencontre avec Emmanuel Macron?
Eh bien, je pense que c'est du racisme pur et simple. Et que c'est absolument scandaleux. Et qu'on sera fiers que Aya Nakamura chante. Et que, finalement, ce qui ressort de cette polémique organisée par des réseaux d'extrême droite, c'est de la pure xénophobie. On est à ses côtés et on est fiers. Et on est fiers.
Quand Gérard Larcher, président du Sénat, dit les paroles, moi, non, bof.
Enfin, non, franchement...
Non, mais il y a 4 Français sur 5, par ailleurs, qui n'ont pas envie qu'elle chante. Ça veut dire qu'ils sont tous racistes.
Gérard, moi, je ne suis pas critique musicale. Mais ce que j'ai vu, des messages qui sont passés, moi, je suis politique.
Et
ben,
et on l'a compris.
Je serai toujours là pour lutter contre l'extrême droite. Je serai toujours là pour lutter contre les campagnes xénophobes. Merci. Et je serai toujours aux côtés de ceux qui en sont les victimes.
Merci Raphaël Glucksmann, merci Amandine, merci Valérie. Tout de suite, vous retrouvez Pauline Revenat et Philippe Godin pour Affaires Suivantes. Je vous retrouve ce soir, 18h. C'est pas tous les jours dimanche. Vive la politique.